nous allons continuer la manière de continuer de voir comment Dieu conduit Joseph. Le Joseph de l'Ancien Testament et le Joseph du Nouveau Testament. Et je crois que cette histoire de Joseph doit être vue très à fond. C'est un peu le sommet de la conduite du gouvernement de Dieu. Il y a certains aspects qui dépassent de beaucoup l'Ancien Testament. Ça va loin. Tellement ça nous fait comprendre le cœur de l'homme et la vision de Dieu personnelle. Donc, je continue comme si la dernière fois c'était hier. Parce que cette histoire de Joseph, elle reste pour nous très actuelle. Joseph, donc, ses frères qui viennent. Alors, on voit tout ce qui est la conduite de Dieu sur les frères de Joseph. Dieu a son temps pour faire comprendre aux frères de Joseph leur jalousie. C'est le défaut le plus difficile à découvrir, la jalousie fraternelle, même quand elle va jusqu'au suicide. On s'excuse. Et les frères de Joseph sont restés avec ce péché sur leur cœur. La tunique du petit Joseph, trempée dans le sang, est montrée au père. Au père, Jacob. Pour faire que le père croit qu'en réalité, son fils est mort selon la nature et non pas par la jalousie personnelle. On cache la jalousie personnelle par la férocité des animaux. Et alors, après ce temps, ils ont eu le temps de réfléchir sur leurs fautes. La providence, le gouvernement divin, permet la rencontre. Tout ce que Joseph a vécu de son côté, ce que eux ont vécu de leur côté. Permet que Joseph les reconnaisse. Et Joseph est resté dans la lumière. Les autres sont tombés dans la ténèbre. Joseph, dans la lumière, a reconnu tout de suite ses frères. Mais il se tait. Les frères n'ont pas reconnu Joseph. Ils sont restés dans la cécité, dans les ténèbres. Alors Joseph va agir avec une espèce d'intelligence, pas de prudence. prudence, une sagesse prudentielle à l'égard de ses frères. Puis Joseph ordonna de remplir leur bagage de froment, de remettre l'argent de chacun dans son sac et de leur donner des provisions pour la route. On fit ainsi pour eux. Ils chargèrent leurs grains sur leur âne et s'en allèrent de là. Mais lorsque l'un d'eux ouvrit son sac à blé pour donner du fourrage à son âne, au campement de nuit, il vit son argent qui était à l'entrée de son sac de blé. Il dit à ses frères, « On a remis mon argent. Ben oui, le voici dans mon sac à blé. » Alors le cœur leur manqua. Ils se dirent l'un à l'autre effrayés, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ?» Donc, ils ont un regret dans la conscience, hein. Ils ne sont pas tout à fait tranquilles. Arrivés auprès de Jacob, leur père, au pays de Canaan, ils l'informèrent de tout ce qui leur était arrivé. L'homme qui est le maître du pays, dirent-ils, nous a parlé durement et nous a pris pour des gens venus espionner le pays. Nous lui avons dit, nous sommes sincères. Nous ne sommes pas des espions. Tellement joli ça. On peut pardonner et la prudence, savoir que ce sont des espions. Des gens doubles. Le jeu. Et ce qui est très beau dans ce texte, c'est le jeu entre la sagesse, le pardon, et puis la prudence surnaturelle. Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes tous frères, fils d'un même père. Il y en a un qui n'est plus, qui est le plus jeune, hein. Et maintenant, avec notre père au pays de Canaan. Mais l'homme qui est le maître du pays nous a dit, à ceci, je saurai que vous êtes sincères. Laissez près de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi préserver vos familles de la famine et allez. Mais amenez-moi votre plus jeune frère. Ainsi, je saurai que vous n'êtes pas des espions et que vous êtes sincères. Vous voyez, la correction fraternelle porte sur la sincérité. Ils n'ont pas été sincères puisqu'ils ont raconté une bonne blague au père. Cachés de leur meurtre, de leur manque de charité fraternelle. Amenez-moi votre plus jeune frère, ainsi je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes sincères. Je vous redonnerai votre frère et vous pourrez parcourir le pays. Or, comme ils vidaient leur sac, voici que chacun avait dans son sac sa bourse argent. Et quand ils virent, eux et leur père, leur bourse d'argent, ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Simeon n'est plus, et vous voulez... » Benjamin, c'est sur moi que tout retombe. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes deux fils si je ne le fais pas revenir vers toi. Confie-le-moi. Moi, je te ramènerai. Je te le ramènerai. Jacob dit, mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il reste seul. Le seul fils de Rachel. Hein. Faut l'oublier. S'il lui arrivait malheur dans le voyage que vous allez entreprendre, vous ferez descendre dans l'affliction mes cheveux blancs au Sheol. Cependant, 43, la famine était grave dans le pays. Lors donc qu'ils eurent achevé de manger le grain qu'ils avaient amené d'Égypte, leur père leur dit, retournez, nous en acheter quelques vivres. Judas lui dit, cet homme nous a solennellement averti, vous ne paraîtrez pas devant moi, a-t-il dit, si votre frère n'est pas avec vous. Si tu laisses partir notre frère avec nous, nous descendrons t'acheter des vivres, mais si tu ne laisses pas partir, nous ne descendrons pas, car l'homme nous a dit, vous ne partirez pas devant moi, si votre frère n'est pas avec vous. Israël dit, pourquoi m'avez-vous fait ce mal d'apprendre à cet homme que vous aviez encore un frère? Le manque de discrétion, hein. Il dit, c'est que l'homme nous a beaucoup questionnés sur nous, sur notre parenté. Il a dit, votre père vit-il encore? Est-ce que vous avez un frère? Et nous l'avons renseigné conformément à ses paroles. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère? Judas dit à Israël, son père, laisse partir le garçon avec moi, debout, allons-en. Ainsi, nous vivrons et ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. C'est moi qui réponds pour lui, c'est à moi que tu en demanderas compte. Si je ne le fais pas revenir vers toi et ne le remets pas en ta présence, je serai coupable envers toi tous les jours. Si nous ne nous étions pas dans ta tarté, nous serions déjà revenus de vous. C'est très, très intéressant de voir, vous voyez, la manière dont les fils répondent au père. Et le père n'a plus de confiance en eux. Il soupçonne quelque chose. Israël, leur père, leur dit, s'il en est ainsi, eh bien, faites ceci. Prenez dans vos bagages les meilleurs produits du pays que vous ferez descendre comme présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, de la gomme aragante et du latanum, des pistaches et des amandes. Emportez de l'argent au double et rapportez avec vous l'argent qui a été remis à l'entrée de vos cinq appelés. Peut-être est-ce une méprise. Prenez votre frère et en route, retournez auprès de cet homme et que El Shaddai vous donne de trouver miséricorde auprès de cet homme pour qu'il vous rende votre autre frère. Et c'est El Shaddai qu'on invoque pour la miséricorde. Et il se faisait montagne. Égorge une bête et apprête-la, car six hommes mangeront avec moi. L'homme fit selon ce qu'avait dit Joseph, et il emmena les hommes à la maison de Joseph. Les hommes eurent peur quand on les emmena à la maison de Joseph, et ils dirent: c'est à cause de l'argent qui a été remis la première fois dans nos sacs à blé qu'on nous emmène. On va se ruer sur nous, tomber sur nous et nous prendre pour esclaves avec nos ânes. Ils s'avancèrent vers le chef de la maison de Joseph et lui parlèrent à l'entrée de la maison. De grâce, mon Seigneur, dirent-ils, nous étions descendus une première fois pour acheter des vivres. Or, quand nous sommes arrivés au campement de nuit et que nous avons ouvert nos sacs à blé, voilà que l'argent de chacun était avec était à l'entrée de son sac. Notre même point d'argent, et nous l'avons rapporté avec nous. Et nous avons descendu avec nous une autre somme d'argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui a mis notre argent dans nos sacs à blé. Il dit: soyez en paix, ne craignez rien. C'est votre Dieu et le Dieu de votre Père qui a placé pour vous un trésor dans vos sacs à blé. Votre argent m'était parvenu. Il leur amena Siméon. L'homme les emmena donc à la maison de Joseph. Il donna de l'eau pour qu'il se lave les pieds. Puis il donna du froment, du fourrage pour leur âne. Et il y a un ordre très remarquable au point de vue. Les pieds et puis les ânes. Du fourrage pour leur âne. Ils disposèrent le présent en attendant l'arrivée de Joseph. Ils avaient appris qu'ils prendraient là leur repas. Lorsque Joseph entra dans la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient avec eux et se prosternèrent à terre devant lui. Il les salua, puis il dit: votre père, le vieillard dont vous avez parlé, se porte-t-il bien? Ils dirent: ton serviteur, notre père, se porte bien. Il vit encore. Alors, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant les yeux puis se sommeil. Et il dit, est-ce là votre plus jeune frère dont vous m'avez parlé? Il dit, Dieu te fasse grâce, mon fils. Alors, en toute hâte, car ses entrailles s'étaient émues à cause de son frère, il avait envie de pleurer. Joseph entra dans la chambre. Et là, il pleura. Puis, s'étant lavé de l'usage, il sortit. Et se contenant, il dit, servez le repas. On le servit à part, et eux à part. À part aussi les Égyptiens qui mangeaient avec lui. Car les Égyptiens ne peuvent pas prendre leur repas avec les Hébreux. C'est une abomination pour les Égyptiens. Ils s'assirent devant lui, le premier-né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon ce jeune âge. Et ces hommes se regardaient l'un l'autre avec stupeur. Joseph préleva pour eux des portions de ce qui était devant lui. Et la portion de Benjamin surpassait 5 fois leur portion à eux tous. Ils purent et s'enivrèrent avec lui. Et cette émotion cachée dans le cœur de Joseph, c'est peut-être ce qui est le plus étonnant, ça. C'est doublement son frère, puisque tous les deux avaient la même mère. Joseph donna cet ordre au chef de sa maison. Remplit les sacs de blé de ses hommes, d'autant de vivres qu'ils en pourront porter. Et met l'argent de chacun à l'entrée de son sac à blé. Et ma coupe, la coupe d'argent, tu la mettras à l'entrée du sac de blé du plus jeune, avec l'argent de son grain. Le chef de sa maison agit selon la parole de Joseph à Huitit. Dès que brilla le matin, on renvoya les hommes avec leurs ânes. Ils sortirent de la ville et n'en étaient pas loin lorsque Joseph dit au chef de sa maison, debout, cours après ces hommes et quand tu les auras rejoints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Pourquoi avez-vous dérobé la coupe d'argent? N'est-ce pas celle dans laquelle voit mon maître et avec laquelle il pratique la divination? Vous avez mal agi en faisant cela. Le chef de sa maison les rejoint et leur dit ces paroles. Ils lui dirent, pourquoi mon seigneur parle-t-il en ces termes, loin de ses serviteurs de faire pareille chose? Vois, l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs à blé, nous te l'avons rapporté du pays de Canaan. Comment donc aurions-nous volé dans la maison de ton maître de l'argent ou de l'or? Celui de tes serviteurs chez qui on trouvera la coupe, qu'il meure, et nous-mêmes, nous devrions nous deviendrons les esclaves de mon Seigneur. Le chef de la maison dit que dès maintenant il en soit selon vos paroles. Celui chez qui on trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez quitte. Ils se hâtèrent chacun de descendre à terre son sac à blé, et chacun ouvrit le sien. Il fouilla, en commençant par l'aîné, et en achevant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac à blé de Benjamin. Alors, ils déchirèrent leurs vêtements, et chacun ayant chargé son âne, ils retournèrent à la ville. C'est bien joué, hein, comme pour scruter le cœur de ses frères. Judas et ses frères entrèrent dans la maison, et Joseph s'y trouvait encore. Ils tombèrent à terre devant lui. Joseph leur dit : « Quelle est cette action que vous avez commise ? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi est capable de deviner ?» Judas dit : « Que dirons-nous à mon Seigneur ? Comment parler et comment nous justifier ? C'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs. Nous voici les esclaves de mon Seigneur, aussi bien nous que celui aux mains duquel on a trouvé la coupe. Mais Joseph dit : loin de moi d'agir ainsi. C'est l'homme aux mains duquel on a trouvé la coupe qui sera mon esclave. Pour vous, montez sain et sauf auprès de votre père. » Alors Judas s'avança vers lui et dit : de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse dire une parole aux oreilles de mon Seigneur, sans que ta colère s'enflamme contre son serviteur, car tu es l'égal de Pharaon. Mon Seigneur a questionné ses serviteurs en disant : avez-vous un père ou un frère ? Nous avons dit à mon Seigneur : nous avons un vieux père et un jeune frère. Enfant de sa vieillesse, le frère de celui-ci est mort, et il reste seul de sa mère, et son père l'aime. Tu as dit alors à tes serviteurs : faites-le descendre vers moi, que je pose mes yeux sur lui. Nous avons dit : mon Seigneur, le garçon ne peut pas quitter son père. S'il quitte son père, celui-là mourra. Et tu as dit à tes serviteurs : si votre plus jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne paraîtrez plus devant moi. Lors donc que nous sommes montés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et quand notre père a dit : retournez, nous acheter quelques vivres, nous avons dit : nous ne pouvons descendre. Si notre plus jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons paraître devant cet homme sans que notre plus jeune frère soit avec nous. Alors ton serviteur, mon père, nous a dit : vous savez que ma femme a enfanté deux fils. L'un est parti auprès de moi, et j'ai dit : certainement, il a été mis en pièces. Et je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous prenez encore celui d'auprès de moi, qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre dans l'infortune mes cheveux blancs au Sheol. Si donc j'arrive auprès de ton serviteur, mon père, sans que soit avec nous le garçon à l'âme duquel sont de mon père en disant « Si je ne te fais pas revenir vers toi, je serai coupable envers mon père tous les jours. Maintenant donc, que ton serviteur reste à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur et que le garçon monte avec ses frères, comment en effet monterai-je auprès de mon père sans que le garçon soit avec moi? Ah, que je ne vois plus le malheur qui atteindrait mon père. » Alors, Joseph ne put se contenter, ne put se contenir devant tous ceux qui se tenaient debout près de lui. Et il s'écria, « Faites sortir tout le monde, tout près de moi. » Il ne restait personne avec Joseph quand il se fit connaître ses frères. Il éleva la voix en pleurant et tous les Égyptiens entendirent la maison de Pharaon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient bouleversés devant lui. Joseph dit à ses frères, « Avancez donc près de moi. » Ils s'avançaient. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère. Que vous avez voulu vendre pour l'Égypte, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne vous affligez pas, ne vous tourmentez pas de ce que vous m'avez vendu ici, car c'est pour procurer la vie que Dieu m'a envoyée en avant. Voilà 2 ans que la famine est à l'intérieur du pays. Il y aura encore 5 années sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et vous garder la vie pour une grande. Ainsi donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu, il m'a établi comme père pour Pharaon, comme maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de monter auprès de mon père, vous lui direz, ainsi parle ton fils Joseph. Dieu m'a établi comme maître de toutes les rues, descends auprès de moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils, les fils de tes fils, ton petit et ton gros bétail et tout ce qui est à toi. Là, je pourvoirai ta subsistance, car il y aura encore 5 années de famine pour que tout ne tombe pas dans l'indigence, toi, ta famille et tout ce qui est à toi. Et voilà que vos yeux le voient, et voilà que vos yeux le voient, ainsi que les yeux de mon frère Benjamin. C'est bien ma bouche qui vous parle. Informez mon père de toute ma gloire en Égypte et de tout ce que vous avez vu. Et hâtez-vous de faire descendre mon père ici. Alors il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Benjamin aussi pleura à son tour. Puis il embrassa tendrement ses frères. sont arrivés, la chose plut à Pharaon et à ses serviteurs. Et Pharaon dit à Joseph, dit à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez, allez au pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur dans le pays d'Égypte. Et vous vous nourrirez de la graisse du pays. Et toi, donne-leur cet ordre, faites ceci. Procurez-vous dans le pays d'Égypte des chariots pour vos enfants, vos femmes. Emmenez votre père et venez. Voyez cette chose très merveilleuse. Parce que c'est raconté comme une histoire. Et c'est en même temps un modèle de pardon, de miséricorde. Et c'est un peu le sommet. On atteint un sommet. Et c'est vraiment à la fois un sommet d'émotion, parce que c'est tellement beau de voir Joseph et Benjamin, les deux d'une même mère, les deux qui sont la joie de leur père, qui se retrouvent. Et c'est tellement beau aussi de voir qu'ils ont compris le chagrin de leur père, du moins certains, un ou deux. Et pour les autres. Et ils sont fidèles à leur promesse pour leur père. Et ils n'ont pas hésité de s'offrir eux-mêmes pour libérer le Benjamin, pour que le Benjamin puisse retourner auprès du père. Donc, dans leur cœur, il y a eu comme une conversion qui s'est opérée, complète. Ils ont tout réparé. Et ce qui est très beau, c'est de voir la manière dont Joseph agit pour être sûr que le cœur de ses frères a changé. Jusqu'au bout, il joue l'homme sceptique qui ne croit pas à ce qu'il dit et qui veut les éprouver et les éprouve. Mais en même temps, l'émotion de Joseph est très belle, elle est très noble, elle est très grande. Et l'affection n'a diminué en rien, malgré tous les tourments que Joseph a vécu à cause d'eux. L'émotion de Joseph à l'égard de son frère, Benjamin, est extraordinaire. Je crois que c'est un des passages de l'Ancien Testament qui sont de la plus grande émotion et de la plus pure. C'est quelque chose d'extrêmement grand, extrêmement noble. Et ça termine ce premier gouvernement paternel de Dieu sur ses enfants. Et je crois que c'est quand même cela que nous devons essayer de comprendre. Pour nous, ces paroles de Dieu. Donc, c'est un enseignement qui est encore vrai pour nous, puisque on n'a pas supprimé l'Ancien Testament à cause du Nouveau. On a laissé l'Ancien Testament avec le Nouveau. Ce que certaines personnes ne comprennent pas. Je me souviens d'un prêtre très bon, merveilleusement bon, qui ne comprenait absolument pas qu'on ait gardé l'Ancien Testament dans la Bible comme étant la conduite de Dieu. Donc pour le croyant, pour le chrétien, c'est une parole divine. Et c'est une des paroles divines les plus étonnantes au point de vue émotion. Évidemment, l'émotion à la croix est beaucoup plus grande et beaucoup plus intérieure. Mais c'est un peu un sommet de l'Ancien Testament. Je crois que l'Ancien Testament est le plus lui-même, c'est-à-dire le plus pur, le plus limpide, lorsqu'il montre la famille. Et là, on montre le terme de la famille. Après, ce sont les 12 tribus. C'est terminé la famille. C'est le sommet de la famille. La royauté n'a pas été voulue par Dieu. Dieu l'a toléré. Le peuple d'Israël l'a réclamé pour être comme tous les autres peuples. C'est très significatif. Quand l'Église veut imiter les autres peuples, quand la théologie sagesse veut imiter les autres sciences, c'est pas Dieu ça. C'est tout simplement l'ambition humaine. C'est très net dans l'Ancien Testament. La royauté n'a pas été voulue par Dieu. Dieu l'a toléré, Dieu l'a béni, et il a béni, on sait très bien, David, Salomon, Dieu a vraiment béni la royauté. Mais la royauté n'a jamais pu atteindre le sommet. C'est très curieux et c'est très impressionnant. Elle s'est corrompue. Même Salomon. Salomon, c'est très beau, le premier Salomon, et puis après. Tandis que la famille, elle garde jusqu'au bout sa grandeur avec ses faiblesses. Et la grande faiblesse de la famille, c'est la jalousie. La jalousie entre frères. C'est ça qui est le plus terrible. Parce que la jalousie mène au suicide. La jalousie n'a pas de limite. Elle va le plus loin possible, c'est-à-dire faire disparaître. Et dans la famille, ce qu'il y a de plus grand, c'est le pardon. Joseph pardonne à ses frères. Alors, il dit, évidemment, vous direz, c'est facile puisque tout lui a réussi. Oui, c'est vrai, ça. C'est là où on voit la différence entre Joseph et le Christ. Parce que il y a quelque chose d'analogue. Joseph annonce quelque chose de très grand et de très beau. Et tout lui réussit. C'est vrai. Et toutes les qualités que Dieu donne à Joseph sont extraordinaires. Mais Joseph garde un cœur pur. C'est la différence avec les rois. La fois prochaine, ce sera la dernière fois et on réfléchira sur ce que je crois qu'il faudrait faire, la théologie de la famille selon la Genèse. Ce serait très beau et c'est relativement facile à faire. Parce que sûrement que la Genèse à quelque chose de fondamental par rapport au gouvernement divin.